On va parler voisinage cet après-midi. Hein? Peut-être que vous êtes bien amis avec vos voisins et que ça se passe bien, mais des fois, il y a des conflits qui peuvent arriver, des nuisances, des problèmes de clôture, d'arbres. Les problèmes sont de toutes sortes, potentiellement. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la notion de trouble du voisinage. Et pour faire le point sur la question, on parle avec Maître Geneviève Graton, qui est notaire et directrice générale du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Geneviève, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Bon, commençons avec des définitions. Hein. Peut-être expliquer brièvement c'est quoi la notion de trouble du voisinage.
Oui, bien, nos lois québécoises et les villes et municipalités ont établi des règles concernant la propriété afin de s'assurer des relations pacifiques. J'insiste sur le mot pacifique entre voisins, ce qui inclut les règles concernant les troubles du voisinage. Il existe d'autres règles qui régissent les relations de voisinage. Ça vous sonnera peut-être des cloches, là, mais il y a le bornage, le régime hydrique qui fait référence à l'eau, évidemment. Les jours et vues qui fait référence aux fenêtres sur notre maison ou notre propriété. Mm-hmm. Les arbres qui font l'objet au printemps de beaucoup de discussions. La mitoyenneté, puis ça fait référence aux clôtures ou aux murs mitoyens là, mm-hmm. qui séparent des propriétés. C'est particulièrement intéressant de noter qu'il n'existe pas de définition légale du terme voisin.
Okay.
Mais on pense à la proximité qui est un facteur important. Cela dit, toute nuisance qu'un voisin peut subir peut être considérée comme un trouble du voisinage. Il y a un tribunal qui a déjà considéré que deux propriétaires qui étaient éloignés de 1,5 km étaient quand même des voisins.
OK, quand même, la définition peut varier, là.
Oui, le terme proximité a le dos large.
Oui, c'est ça.
Mais c'est également important de savoir que les voisins se réfèrent pas seulement à des personnes privées, mais ça peut aussi être des entreprises voisines.
Bon, concernant les troubles du voisinage, est-ce qu'on peut entrer un peu plus dans le détail?
Bien sûr. En principe, les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage, qui n'excèdent pas les limites de la tolérance. C'est là où le bas blesse. Là, on n'a pas tous les mêmes notions de tolérance.
Mm-hmm.
Donc, un propriétaire ne peut pas adopter un comportement qui cause une nuisance anormale pour son voisin. Ce qui peut prendre un nombre incroyable de formes, comme le bruit, l'odeur, la poussière, la fumée. Par conséquent, dans le cas où vous avez souffert d'un trouble de voisinage, votre première solution devrait être de parvenir à un accord avec votre voisin afin de le résoudre à l'amiable. Parce que l'enjeu avec les troubles du voisinage, c'est que vous allez devoir continuer à voir votre voisin et qu'il ne paraîtra pas avec le conflit.
Effectivement.
Ouais. En cas d'échec, vous pouvez alors envoyer une lettre de mise en demeure et si ces deux solutions échouent, vous pouvez recourir aux tribunaux pour être indemnisé ou pour obliger votre voisin à cesser ou à remédier aux troubles de voisinage en question. Mais encore là, je le mentionne, il faut toujours garder à l'esprit que votre voisin ne disparaîtra pas.
On a évoqué quelques exemples, mais si on entre un peu plus dans le détail au niveau des exemples de troubles de voisinage.
Il y a trois exemples d'usage anormal.
Okay.
Donc, l'absence d'entretien qui peut entraîner la chute d'une construction ou d'un ouvrage sur le terrain du voisin qui pourrait nous affecter.
Mm-hmm.
Il y a les travaux d'excavation, de construction ou de plantation qui auraient des effets sur le terrain voisin et l'utilisation d'une structure qui polluerait ou épuiserait l'eau. Donc, je pense qu'on a tous plein d'idées en tête.
Mm-hmm. Oh, oui.
Donc, oui. Les exemples les plus courants seraient la pollution sonore ou le bruit excessif, qui est un exemple vraiment typique des troubles du voisinage. Ça peut affecter la qualité de vie de votre voisin, car ça peut l'empêcher de dormir ou de bénéficier d'un environnement calme et paisible. Mais le bruit doit être anormal et déraisonnable.
Mm-hmm.
Et souvent, le caractère incessant et répétitif là, favorise la qualification du trouble de voisinage. Là, j'ai en tête que si votre voisin se met à triper sur le heavy metal ou du rock alternatif du matin au soir, tous les jours ou presque, à des décibels qui sont vraiment plus élevés que le tolérable pour la moyenne des gens,
mm-hmm.
ça pourrait être considéré comme un trouble du bruit.
OK.
Il y a aussi la nuisance olfactive. Donc, les mauvaises odeurs, comme les déchets, les fumées ou toutes les autres odeurs nuisibles là, qui peuvent également être considérées comme des troubles du voisinage. Mais là, attention, la nuisance doit être anormale encore là et excessive. Mm-hmm. Vous pouvez être tenu à tolérer certaines odeurs désagréables comme un feu de camp occasionnel. Là, de toute façon, ça sent bon. Un feu.
Ouais, ouais.
C'est plus si c'est des pneus qui sont brûlés.
Ah
là,
oui, là, c'est autre chose.
Autre chose. Mais il y a aussi, faut considérer votre situation géographique parce que ça peut influencer le fait qu'une nuisance soit considérée comme normale ou anormale. Si vous vivez en zone agricole, il est raisonnable de devoir subir des odeurs désagréables des animaux ou des mm-hmm. activités agricoles comme l'épandage qui se fait à certaines périodes de l'année.
Oui, oui. Donc, le critère anormal, ça va avec le contexte. Là. Déraisonnable aussi, ça va avec le contexte.
Exactement. Ça peut être des le normal va devenir anormal dans un autre lieu.
Mm-hmm. Okay.
Concernant la nuisance visuelle anormale, on peut penser à des constructions inesthétiques, des véhicules mal stationnés ou qui sont en détérioration vraiment importante. Ça peut être considéré comme des troubles du voisinage.
Okay. Les animaux de compagnie, on entend souvent ça. Est-ce que ça entre là-dedans?
Bien, ils ne constituent pas en soi un trouble du voisinage.
Okay.
Mais si un chien aboie sans s'arrêter du matin jusqu'au soir, la nuit, puis ça continue à... Il s'échappe continuellement sur le terrain du voisin. À ce moment-là, ça peut devenir un trouble du voisinage.
Là aussi, il faut évaluer, puis c'est une question de contexte, là, si je comprends bien. Là.
Tout à fait.
Maintenant, parlons, parce qu'on parle de voisins, donc souvent de deux terrains mitoyens. La séparation entre nos terrains et celui de nos voisins, il faut bien le déterminer. Comment est-ce qu'on fait ça?
Bien, la séparation des terrains des voisins se fait par un processus appelé bornage.
Mm-hmm.
En d'autres mots, c'est le fait de délimiter les deux terrains. Le processus est réalisé par un arpenteur géomètre. Donc, tout propriétaire a le droit d'obliger son voisin à délimiter son terrain. Donc, pour établir la ligne de séparation ou pour rétablir une ligne de séparation qui a été déplacée ou qui est disparue. Donc, pour la rectifier. En ville, c'est beaucoup plus facile de connaître l'étendue de notre terrain mm-hmm. grâce à des clôtures ou des constructions. Mais lorsqu'on s'éloigne des centres, c'est plus difficile parfois de savoir où se trouve la limite d'un 3 acres d'un lot. Donc, le bornage devient vraiment utile pour nous permettre de le savoir.
Geneviève, tantôt, là, tu nous mentionnais là, des règles concernant les fenêtres. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu plus?
Oui. Donc, dans le but de protéger les citoyens des regards indiscrets, puis d'assurer notre vie privée, il existe certaines réglementations concernant l'établissement des fenêtres et de toute autre ouverture. Donc, vous ne pouvez pas avoir des vues directes sur le terrain de votre voisin. Une vue directe signifie qu'une fenêtre ou une porte transparente se trouve à moins de 1,5 mètre de la ligne de séparation avec votre voisin. Mais toute autre fenêtre ou ouverture donnant sur une voie publique ou un parc public est autorisée, ainsi que les portes pleines ou translucides.
Qu'est-ce qui se passe si mon terrain est traversé par des cours d'eau naturels?
Oui. Nos lois ont établi des règles concernant l'écoulement et l'utilisation de l'eau dans le but de protéger l'environnement. Le terrain inférieur, donc celui qui reçoit l'eau, doit recevoir l'eau qui s'écoule naturellement du terrain le plus élevé et il ne peut pas empêcher le courant naturel.
Okay.
Donc, dans le même ordre d'idée, le propriétaire du terrain qui serait supérieur ne peut pas non plus aggraver le courant de l'eau qui nuirait à son voisin du terrain inférieur.
Mm-hmm.
Ça vaut aussi là, pour des gouttières qui seraient dirigées directement sur le terrain du voisin en passant.
Ouais, ouais, oui.
S'il existe un courant d'eau qui borde ou traverse votre terrain, vous pouvez utiliser l'eau dans son passage. Donc, par le puisage, pour l'irrigation, l'abreuvage, la baignade, la circulation. Vous pouvez également exiger la destruction ou la modification de tout ouvrage qui pollue ou épuise l'eau.
Mm-hmm.
Donc, lorsqu'il y a plusieurs propriétaires voisins qui partagent une source d'eau, donc on pense lorsqu'il n'y a pas d'aqueduc, mm-hmm. Chacun d'entre eux peut empêcher les autres de polluer ou d'épuiser la ressource. Chaque propriétaire doit avoir des toits aussi bien établis pour que l'eau, la neige et la glace tombent sur leur propriété et non sur celle du voisin.
Voilà pour l'eau. On parlait des arbres aussi. Qu'est-ce que dit la loi concernant les arbres?
Ah, les arbres. Bien, chaque propriétaire ne peut pas laisser ses arbres ou ses racines pousser sur le terrain du voisin. On s'entend que ça c'est limite, mais parce qu'on ne fait pas le suivi de chaque racine d'arbre. Mais dans le cas où les branches ou les racines de l'arbre du voisin nuisent gravement à l'usage de mon propre terrain, je peux demander à mon voisin de les couper. Puis s'il refuse de le faire, ben je peux le contraindre à les couper.
Okay.
En ce qui concerne les arbres dangereux, je peux aussi obliger mon voisin à couper ou à redresser son arbre qui risque de tomber sur mon voisin, et ça à ses propres frais.
Okay.
Et dans le cas où le voisin il refuse de remédier à la situation, ben il devient le seul responsable des dommages qui pourraient résulter de l'arbre. Donc, par exemple, si l'arbre en question s'effondre sur ma maison, ben, il pourrait être tenu à tous les dommages que ça entraîne.
Maintenant, pour ce qui est des clôtures, est-ce que j'ai le droit de mettre une clôture sur mon terrain?
Oui, mais tout propriétaire a le droit de clôturer son propre terrain. En fait, vous pouvez faire un mur, un fossé, une haie, une barrière ou tout autre ouvrage de type clôture.
Mm-hmm.
Vous êtes également libre de choisir le style, par exemple la hauteur, la couleur, les matériaux utilisés. Faut quand même respecter les normes de votre municipalité, là, et obtenir un permis. Par contre, dans ce cas-là, votre clôture doit être bâtie sur le long de la ligne séparative, donc qui se situe entièrement dans les limites de votre terrain. Vous êtes le seul responsable à payer les frais de construction et l'entretien si c'est vraiment dans les limites intérieures de votre terrain.
Okay.
Mais vous avez aussi la possibilité de vous entendre avec votre voisin. Là, vous comprenez que je favorise vraiment la bonne entente avec votre voisin. Donc, discutez-en si vous voulez faire une voiture. Peut-être que ça va faire son affaire aussi. Donc, vous pourriez construire une clôture mitoyenne sur la ligne séparative de vos deux terrains. Donc, vraiment sur la limite de chacun des lots. Dans ce cas-là, vous pourriez décider du style ensemble et vous partager les frais.
Maintenant, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles les voisins peuvent être confrontés à des conflits, d'autres situations que ce qu'on vient de nommer?
Bien, lorsqu'on pense à l'expression « chicane de clôture »
mm-hmm.
ou « chicane de voisin », il s'agit souvent de questions liées aux servitudes.
Okay.
Les servitudes, c'est une charge qui est imposée sur une propriété en faveur d'un autre propriétaire. On n'ira pas dans les détails, mais une servitude peut être établie de différentes manières, donc entre autres par contrat. Il y a des exemples de servitudes comme la servitude de passage, qui est très, très connue,
mm-hmm.
Servitude de puisage d'eau, servitude de vue, de non-construction, d'accès à un lac. Ça, on a beaucoup ça dans la région parce qu'on a vraiment beaucoup de beaux lacs. Mais il existe également certaines obligations qui incombent à chaque propriétaire, c'est-à-dire celui qui bénéficie de la servitude, mais aussi celui à qui la charge est imposée. Celui qui en bénéficie peut, à ses frais, faire tous les ouvrages nécessaires pour utiliser la servitude puis pour la conserver dans les paramètres du contrat de servitude, bien évidemment. Mais il ne peut pas aggraver la situation. Par exemple, quelqu'un qui a une servitude de droit de passage, il n'est pas autorisé à stationner ses véhicules dans le passage.
Mm-hmm.
Parce que si ça aggrave la situation... c'est pas la fonction pour laquelle la servitude a été consentie non plus. Celui qui offre la servitude, par contre, peut pas poser des actes qui diminueraient l'usage de la servitude, qui la rendraient moins convenable. Par exemple, si vous avez consenti un droit de passage, vous pouvez pas mettre une clôture à chaque bout pour empêcher votre voisin d'utiliser le droit de passage.
Puis, est-ce qu'il y a un moment où le propriétaire est libéré de sa charge de fournir une servitude? Est-ce que ça se peut, ça?
Bien, il existe plusieurs façons de mettre fin à une servitude. Entre autres, la servitude s'éteint à la suite de la vente lorsque, par exemple, le voisin devient propriétaire du fonds servant. Donc, ça veut dire si vous avez acheté le lot voisin sur lequel était le droit de passage, ben là, à ce moment-là, la servitude s'éteint parce que vous devenez le propriétaire du droit de passage.
Mm-hmm.
Donc, la servitude prend également fin lorsque le propriétaire qui en bénéficie, il renonce expressément. Donc, et volontairement. Les deux propriétaires peuvent aussi décider d'un commun accord de résilier la servitude. On se rappelle qu'on n'est pas, on peut pas supposer la mésentente entre propriétaires de lots voisins et de bénéficiaires de servitude. Puis si la servitude comportait une durée limitée, par exemple, elle prendrait fin à l'arrivée de ce terme. Si on peut penser à une servitude de droit de passage qui existerait, dont le terme serait jusqu'à ce que la route municipale se rende à mon terrain. Bien, une fois que la route municipale se rend à mon terrain, j'ai plus besoin de la servitude de mon voisin.
Je comprends. Et là, ça fait un tour rapide de la question des troubles de voisinage, mais si on a des questions, j'imagine qu'on peut vous joindre au Centre de justice de proximité de l'Outaouais.
Vous pouvez nous joindre au 819-646-00 ou sur notre site au justicedeproximité.qc.ca.
Geneviève Graton, notaire et directrice générale du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, un grand merci pour les chroniques cette saison parce que c'était la dernière pour cette saison. C'est toujours un plaisir de jaser avec l'équipe et d'en apprendre davantage sur des questions de justice comme ça dans notre belle société. Geneviève, un grand merci.
Un grand merci à toi et puis on se retrouve à l'automne.